Henri de Régnier, à double maîtresse, troisième partie, chapitre 9. Le contenu des amphores de terre cuite fondait rapidement. L'une après l'autre, elles descendaient de leurs planches et s'entassaient dans un angle de la chambre où M. de Galando les laissait une fois vides. À son approche, elles vibraient doucement. Avec leurs gros ventres et leurs anses courtes, elles semblaient un conciliabule accroupi de naines trapues. Lorsque la dernière eut rejoint les précédentes, M. de Galando cessa de venir à la villa. Depuis longtemps, ses hardes avaient été transportées chez Olympia. Il y vivait complètement, plutôt on y vivait à ses dépens, car on tirait de lui des sommes de plus en plus importantes. Il les prenait maintenant chez M. Dalphy, son banquier. De longues années d'économie avaient constitué au bon gentilhomme de fortes réserves qui, outre ses revenus, le faisaient solidement riche. M. Dalphy pêchait là-dedans en eau trouble. M. de Galando ne comprenait rien au compte que lui fournissait le banquier et qu'il prenait à peine le soin d'examiner dans sa hâte de fuir la présence du traitant. M. Dalphy, qui connaissait l'aventure de son client, ne manquait pas à chaque visite de faire à cette circonstance quelque allusion détournée. Il le recevait en souriant d'un air entendu, l'accablait de prévenances narquoises et de clins d'œil. Il discourait sur les coûteuses fantaisies des belles. La vérité est qu'il admirait fort M. de Galando pour ce qu'il appelait sa belle conduite. Le banquier aimait les femmes, et sa vie avait été un combat acharné entre sa paillardise et son avarice. Aussi considérait-il avec respect les dépenses de M. de Galando pour Olympia. Pour un peu, il l'en eût loué directement. Il se bornait pourtant à quelques considérations générales, tout en regrettant de ne pouvoir aller plus loin. M. de Galando lui paraissait maintenant un homme avec qui on pouvait parler, mais qui ne répondait guère, car il s'empressait d'empocher ses ducats et ses sequins, tandis que M. Dalphy lui disait tout en le reconduisant et en le tirant par la manche « Ah, Seigneur Galando, les femmes, les femmes !» Et comme il le voyait s'éloigner à grands pas, le dos courbé, maigre et dégingandé, il ne doutait point qu'il dût sa démarche chancelante et son air distrait aux fatigues de l'amour qui vit de leur cerveau, font saillir les côtes et amollissent les jambes. En cela, il se trompait lourdement. La seule vue d'Olympia semblait maintenant suffire à ce bizarre amoureux. Son assiduité silencieuse ne laissait pas que d'agacer la signora. Cette paresseuse détestait qu'autour d'elle on ne fît rien. Aussi, le petit valet Jacopo, la servante Julia et la vieille cuisinière Adelina était-il continuellement harcelé de besogne. Peu à peu, à force d'avoir auprès d'elle Nicolas, elle prit l'habitude d'user de sa complaisance pour mille petits services familiers qu'il lui rendait avec empressement. Elle le dérangeait 20 fois l'heure pour lui ramasser son mouchoir ou son éventail, pour lui ouvrir ou pour lui peler un fruit, pour aller chercher ceci ou cela. Il se prêtait avec une béatitude singulière à ses ordres les plus inutiles, car, la plupart du temps, elle oubliait ce qu'elle demandait avant qu'on le lui apportât. Remontait-il essoufflé de l'office avec un sorbet sur un plateau qu'il fallait redescendre au jardin pour mener pisser la petite chienne. M. de Galando mettait à tout cela une promptitude et une maladresse admirables dont Olympia, selon les sautes de son humeur, riait ou se fâchait. Il fallait le voir alors, humble et penaud, avec sa longue figure anxieuse et naïve. Cela finit par aller loin, car l'abus suit toujours l'usage, et M. de Galando était trop homme à se prêter à l'un pour ne pas se soumettre à l'autre. Nul risque qu'il regimbât, si bien que, lorsqu'entrait dans l'appartement le vieux castrat Tito Barelli, qui divertissait fort Olympia par sa méchanceté, son fausset et son fard aux pommettes, ne voyait-on pas, sur un signe de sa maîtresse, le digne gentilhomme se lever gravement pour rouler une chaise au pitre, qui s'y carrait sans le remercier autrement que d'un petit salut, ou voltiger sur sa nuque le papillon de ruban noir qui nouait sa perruque poudrée. Le dommage de tout cela, c'est qu'à voir faire Olympia, les visiteurs avaient pris le pli d'agir d'eux-mêmes, et ils en venaient à demander à M. de Galando maint petit soin qui eussent mieux été le fait du petit valet Jacopo. D'autre part, il arrivait qu'en somme, Olympia ne pouvait plus guère se passer de M. de Galando. Elle l'appelait à tout propos, qu'elle fût au lit ou à sa toilette. il assistait à sa vie quotidienne en toute sa nudité et toute sa crudité, de telle sorte qu'il payait chaque année, de beaucoup de sacs d'or, le privilège de mêler sa vieillesse ancillaire aux turpitudes de cette jeunesse lascive et dévergondée, de vivre sous le toit d'une courtisane en commensal et à peau et à roue avec un ruffian de l'espèce d'Angiolino. Le bon monsieur de Galando, en effet, quelle que fût sa simplicité et sa naïveté, ne pouvait guère se méprendre sur la qualité de ses hôtes. Il ne prenait d'ailleurs aucun soin de la dissimuler le moins du monde et ne se privait pas de raconter les bons tours de leur métier. C'est ainsi que monsieur de Galando connut les exploits d'Angiolino, ses fortunes diverses, et entendit parler tout haut de madame Pietragritta et du cardinal Lamparelli et de maints autres personnages. Il sut donc que cette Olympia, à qui il obéissait sans répli, avait traîné par les rues et les tavernes, que, née au populaire, elle avait montré ses guenilles à tous les carrefours de Rome, et que c'était là pour lui une bien étrange compagnie. Il ne semblait pas s'en inquiéter. Il regardait tranquillement son argent passer aux mains des deux escamoteurs. Bien plus, il ne se rendait aucun compte de la déchéance de sa destinée et ne se représentait nullement avec exactitude la bizarrerie lamentable de son état. La vie a des ruses singulières pour nous faire accepter en douceur ses pires circonstances, et ses voies sont telles qu'elle nous conduit toujours où elle veut, sans que nous nous en apercevions. Il est probable que si on eût montré d'avance à M. de Galando la figure qu'il ferait un jour entre Olympia et Angiolino, il se fût refusé à ce baroque avenir. Certes, il se fût étonné de se voir au même miroir où Olympia coiffait ses cheveux, debout derrière elle à lui tendre les épingles, la pommade et le peigne, sans se douter qu'après tout, il accomplissait là sa fonction secrète et naturelle. N'était-il donc pas né pour la servitude ? Cette disposition remontait loin en son passé, et il aurait pu, regardant mieux, distinguer dans la glace qui le reflétait ainsi, en une sorte d'arrière-perspective de lui-même, d'autres messieurs de Galando, d'âges divers, mais tous également serviables, depuis celui qui récemment surveillait le pot de la vieille Barbara, jusqu'à celui qui naguère aidait le vieil Hilaire à cuire ses œufs dans la vaste cuisine déserte de Pontobel, ou qui, un long balai à la main, chassait les chauves-souris de la chambre nocturne de Mademoiselle de Mauceuil, ou, accroupi dans le sable des allées, il construisait des jardins de brindilles et des maisons de cailloux pour amuser à ce jeu sa petite cousine Julie. De sorte qu'en réalité, la situation singulière de M. de Galando, aux ordres d'Olympia, se trouvait parfaitement conforme à son passé, et que le jeune homme de 20 ans, qui jadis obéissait sans besoin aux médicaments de sa mère, préparait le barbon de 58 ans, qui se levait au moindre geste de l'italienne pour lui ramasser son éventail, tirer le store ou courir au gré de son caprice. Peu à peu, à vrai dire, du service individuel de la personne d'Olympia, M. de Galando descendait aux soins généraux de la maison. Il commençait même à ressentir cet orgueil particulier aux domestiques d'avoir bien accompli un ouvrage dont on l'avait chargé. Il se montrait déjà naïvement fier de certaines tâches. Une entre autres le rehaussait à ses propres yeux. Olympia n'avait plus confiance qu'en lui pour soigner sa petite chienne Nina depuis qu'on avait surpris Jacopo à lui jouer de mauvais tours, ce qui lui valut d'Angiolino une bastonnade d'où il sortit les chines lasses et les reins meurtris. Dès lors, ce fut M. de Galando qui prépara chaque matin la pitance de Nina et la baigna dans un grand baquet au milieu du jardin. La petite bête se laissait faire assez tranquillement. Il la savonnait gravement, sous sa longue main maigre, elle devenait toute mousseuse. Puis, il l'aspergeait et l'envoyait sauter du bain, parmi des éclaboussures d'eau savonneuse, une espèce de boule grasse et lisse qui jappait et que M. de Galando, pour qu'elle séchât mieux, excitait à courir avec de grands gestes. Mais à certains jours, la chose allait mal. Nina devenait hargneuse et arrogante, tournait en aboyant autour de son baigneur, happait les longues basques volantes de son habit et finissait par lui mordre les mollets. Ce spectacle divertissait infiniment Olympia et Angiolino, qui le regardaient de la fenêtre. Ils y apparaissaient au saut du lit et souvent dans une attitude peu équivoque. M. de Galando levait vers leur rire ou leur baiser un œil indifférent. Il n'ignorait rien de ce dont il ne faisait du reste aucun mystère. Il avait accepté tout, sans rien dire. De même qu'il ne semblait point s'apercevoir des visiteurs d'occasion que le ruffian continuait d'amener à sa maîtresse et qui passait la nuit avec Olympia et dont il voyait le matin, dans le corridor, le jeune Jacopo cirer les souliers et brosser les habits en sifflant entre ses dents. Même sans une entrée fortuite dans la chambre d'Olympia, qui lui montra un jour la jeune femme au bras d'Angiolino, M. de Galando n'en eut pas moins découvert leurs amours, car, s'ils en étalaient crûment les caresses à portes ouvertes, ils n'en cachaient guère les querelles. La maison retentissait alors de leurs cris. M. de Galando se trouvait donc le témoin de leurs brouilles et de leurs raccommodements. Aussi bien qu'il voyait Angiolino culbuter sans façon sa maîtresse, il avait vu Olympia danser à demi nue sous la canne de son amant. C'était de terribles batteries d'où Angiolino se tirait déchiré de coups d'ongles et d'où Olympia s'enfuyait la face chaude de larmes furieuses. Il se prenait aux cheveux et au milieu des sièges renversés, des objets cassés, des tentures salies par les bouteilles et les flacons qu'il s'était d'abord lancés à la tête, il formait un groupe hargneux et hurlant, autour duquel la petite chienne Nina tournait en poussant des glapissements plaintifs, tandis que M. de Galando, la scène terminée, ramassait les meubles à terre, essuyait les flasques de vin ou les fruits écrasés, réunissait en tas les éclats de verrerie, dont ses écus, le lendemain, réparaient le dégât, à moins qu'il ne se tînt immobile, la tête basse et les bras pendants, à écouter par la porte ouverte, et qu'il n'avait pas même pris le soin de fermer, les ébats des deux amants, qui achevaient leur colère en un combat amoureux où ils mêlaient leur souffle court et leur corps deux fois fatigués. M. de Galando écoutait. Il y avait de longs silences, des soupirs, des rires, et il restait l'oreille tendue jusqu'à ce qu'un appel le fît tressaillir en sursaut. On appelait Jacopo, mais M. de Galando répondait involontairement au lieu du petit valet, comme si, à force d'en avoir rempli l'office, il en eût partagé l'état, et c'était lui qui revenait, apportant sur une assiette les oranges et les citrons que le drôle et la drôlesse mangeaient à la fin de ces journées orageuses pour se rafraîchir la bouche. Ils mordaient tour à tour aux mêmes fruits, et M. de Galando, sous sa grosse perruque, maigre en son habit gris usé, se baissait silencieusement pour ramasser les écorces et les épluchures.